D'accord, donc là on a fait les distinguos entre, dans les droits personnels encore une fois, entre les typologies d'objets d'obligation, et donc on a vu la classification tripartite, c'est donner, faire, ne pas faire. Il y a d'autres façons de distinguer les obligations, et donc les droits personnels. Hein. La deuxième grande catégorie de distinction, c'est de raisonner selon la façon dont l'obligation, doit être exécutée. Vous avez deux types d'exécution, les exécutions en nature et les exécutions par équivalent. Les exécutions en nature, quand il s'agit de raisonner sur une exécution en nature, ça signifie que le débiteur est tenu de fournir ce à quoi il s'est engagé. Par exemple, livrer un bien, donc comme les services de transport, hein, transférer la propriété d'un bien, ne pas s'installer dans telle ville si on prend l'obligation de ne pas faire, tout ça, ça s'exécute en nature. Une obligation de ne pas faire, bah, vous devez être contraint de fournir ce à quoi vous vous êtes engagé. Là, en l'espèce, c'est une abstention, donc vous êtes contraint à ne pas vous installer. Et cette obligation-là, vous l'exécutez en nature. Depuis 2016, donc l'ordonnance de 2016, hein, qui a réformé le droit des contrats, l'exécution en nature, c'est le principe. L'exécution par équivalent, ça devient l'exception. Ça a été instauré. Avant, c'était le principe que pour les obligations de donner. Avant, on considérait qu'il n'y avait que pour les obligations de donner que l'exécution était nécessairement en nature. Maintenant, c'est le principe pour l'ensemble des obligations et il peut y avoir des exceptions dans certains cas. Ces exceptions, elles se réaliseront avec une exécution par équivalent et dans ce cas-là, vous vous acquittez de l'obligation en payant une somme. Voilà. C'est un peu l'équivalent d'un dédommagement. Donc, vous avez deux modalités d'exécution. Donc, vous voyez bien la différence de raisonnement. Hein. Là, on a distingué selon ce à quoi vous vous engagiez. Dans la différence selon les modalités d'exécution, on distingue selon comment je réalise mon engagement. À quoi je m'engage, c'est la première distinction, donner, faire, ne pas faire. Comment je m'engage, qu'est-ce que je dois réaliser, une exécution en nature, une exécution par équivalent. La dernière distinction que vous approfondirez nettement quand vous ferez du droit des obligues, donc en L2, c'est la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être déjà vu passer ces expressions. Je vais vous donner les grandes lignes, encore une fois, et vous approfondirez, mais c'est une question d'intensité. Qu'est-ce que j'entends par l'intensité de l'obligation? En gros, c'est à quel point est-ce que le débiteur s'engage auprès de vous? Jusqu'où doit l'amener son obligation? Jusqu'à quel point il est engagé auprès de vous qui êtes créancier? Et ça va nous amener, encore une fois, à distinguer l'obligation de moyens d'une part et l'obligation de résultat d'autre part. Quand l'obligation est de moyens, le débiteur doit, c'est la définition classique hein, que vous avez au tableau, le débiteur doit apporter tous les moyens possibles, donc c'est ce qu'on appelle les soins et les diligences nécessaires, pour atteindre la réalisation de son obligation. Voilà. Il doit tout mettre en œuvre, c'est pour ça qu'on appelle ça une obligation de moyens, il doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre son obligation. S'il l'a fait, quand bien même le résultat ne serait pas atteint, alors il a respecté son obligation. Je vais vous donner des exemples ensuite. Une obligation de résultat, par contre, le débiteur est tenu d'arriver au résultat promis. Voilà. S'il démontre qu'il a mis en œuvre tous les moyens possibles mais qu'il n'est pas parvenu au résultat, il sera responsable parce que de lui, on attend le résultat atteint. Donc vous voyez qu'il y a une différence d'intensité. Dans le premier cas, on se contentera de démontrer que le débiteur a bien mis en œuvre tous les moyens. Et quand bien même il n'aurait pas atteint le résultat promis, dès lors qu'il a mis en œuvre tous les moyens qui étaient nécessaires pour atteindre l'exécution de l'obligation, alors il n'y aura pas de responsabilité à engager de son côté. Par contre, si c'est une obligation de résultat, alors dès lors que le résultat n'est pas atteint, le débiteur est responsable. Même s'il a tout fait pour atteindre l'obligation et l'exécution, la réalisation de l'obligation, et qu'il n'y est pas parvenu, le seul fait qu'il n'atteigne pas le résultat le rend responsable. Alors, énoncé de manière très théorique comme ça, ça peut vous étonner, et ça peut vous étonner notamment sur l'obligation de moyens. La première tendance qu'on peut avoir quand on découvre les typologies d'obligations, c'est de se dire « ça n'a aucun sens, en fait on devrait attendre de tout le monde une obligation de résultat, et en fait bah, on s'engage à quelque chose, il faut atteindre ce résultat-là, sinon on est responsable ». Difficile de fonctionner comme ça. Exemple. Vous êtes oncologue, donc vous traitez des patients qui sont atteints de cancer. Il y a un contrat qui s'opère entre le patient et le médecin. Le médecin a la charge de vous soigner. C'est son objectif. Dans le meilleur des cas, d'obtenir une guérison. Il va mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre ce résultat-là, qui est la rémission, voire la guérison du patient. Il y a malheureusement de très nombreuses hypothèses dans lesquelles, malgré tous les moyens mis en œuvre, on n'aboutit pas à ce résultat-là. Et le patient décède. Vous vous doutez bien que dans cette hypothèse-là, on ne peut pas faire peser sur le médecin une obligation de résultat. On ne peut pas dire à un oncologue « Ah, peu importe, vous avez mis en œuvre tous les moyens que la médecine vous offrait pour le traiter, il ne s'en est pas sorti, vous êtes responsable. » Il y a votre responsabilité qui peut être engagée pour une raison simple, c'est que votre résultat, l'obligation à laquelle vous étiez tenu, c'était une obligation de résultat, d'une obligation de guérison. Si on considère que c'est une obligation de résultat, alors si le patient est décédé, vous êtes responsable. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc le médecin sera le cas échéant responsable en cas de négligence, s'il n'a pas fourni tous les soins et toutes les diligences nécessaires pour traiter, mais dès lors que c'est fait, sa responsabilité ne peut pas être engagée. Pourquoi ? Parce qu'il est tenu non pas d'une obligation de résultat, mais d'une obligation de moyens. Voilà. Un médecin, il est tenu de tout mettre en œuvre pour vous soigner. S'il le fait, on exclut toute hypothèse de responsabilité. Et on ne pourra engager sa responsabilité que quand il sera démontré qu'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour vous soigner. Mais donc vous voyez bien que dans cet exemple-là, typiquement, on ne peut pas envisager une obligation de résultat. Ça n'aurait aucun sens. Vous êtes tenu de guérir un malade de cancer en phase terminale. Matériellement, scientifiquement, en l'état actuel des choses, c'est impossible. Donc c'est une obligation de moyens qui lui est fixée. À l'inverse, les obligations de résultat, par exemple, c'est les obligations de remise du bien dans un contrat de vente. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, la FNAC auprès de laquelle vous achetez un iPhone, la FNAC, en tant que vendeur, a une obligation de résultat de remise du bien. Elle ne peut pas vous dire « Oh, moi, j'ai tout fait pour qu'il ait l'iPhone entre les mains, après, ça ne s'est pas produit, ce n'est pas de ma faute. » Là, c'est une obligation de résultat. Ce qui nous intéresse, c'est que le résultat qui est la remise du bien soit atteint. Donc, en fait, ça dépend des obligations. À chaque fois, il faudra regarder si c'est une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Jusqu'à quel point on attendait quelque chose du débiteur ? Est-ce qu'on attend nécessairement le fait qu'il atteigne le résultat promis ? Et dans ce cas-là, c'est une obligation de résultat. Est-ce qu'on se contente, entre guillemets, du fait qu'il ait mis en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre ce résultat ? Et dans ce cas-là, c'est une obligation de moyens. Qui est paumé ? Pour qui est-ce que ça va ? Impec, on a fini les droits patrimoniaux. Et on attaque maintenant l'autre grande catégorie qui fait donc l'objet d'une section 2 sur les droits extra-patrimoniaux. Je rappelle, je remonte à l'origine du chapitre. Voilà. On a expliqué que la physionomie des droits subjectifs se subdivisait et que vous aviez à la fois des droits patrimoniaux dans votre patrimoine, ce qui explique qu'on ait vu le patrimoine en premier, et en parallèle de ça, des droits extra-patrimoniaux qui échappent à votre patrimoine. On va voir ce que ça recouvre comme réalité maintenant. Si vous avez bien compris ce qu'on a dit depuis le début, vous savez que les droits réels, les droits personnels sont des droits patrimoniaux et que comme ils sont des droits patrimoniaux, ils sont intégrés dans votre patrimoine en positif ou en négatif selon que vous êtes créancier ou débiteur. Jusque-là, ça va. Parce qu'ils sont des droits patrimoniaux, les droits réels, les droits personnels, ils peuvent être transmis, donnés, vendus, etc. Ils ont une valeur économique, vous pouvez vous en détacher, vous pouvez les obtenir d'un tiers, etc. Les droits patrimoniaux,
ils ont vocation à circuler.
Un droit extra-patrimonial, il ne circule pas. Il est attaché à vous, il n'est attaché qu'à vous. Alors on a tous les mêmes droits extra-patrimoniaux, mais on ne peut pas transférer, céder, donner nos droits extra-patrimoniaux. Ils n'ont pas de vocation à la circulation. Donc revenez déjà ça. Un droit patrimonial, ça peut circuler. Un droit extra-patrimonial, jamais. Impossible. Pour des raisons évidentes qu'on va comprendre au fur et à mesure qu'on avance. Mais évidemment, il n'est pas possible d'envisager qu'on se départisse de nos droits extra-patrimoniaux. Qu'on se débarrasse, qu'on n'ait plus nos droits extra-patrimoniaux. Ils ont une valeur qui n'est pas... Alors, ça pourrait être discuté, si j'ai 5 minutes, je vous expliquerai notamment des cas un peu frontières. Mais... en principe, ils n'ont pas de valeur économique, pas de valeur financière, pas de valeur pécuniaire. C'est un autre type de valeur qui est protégé dans les droits extra-patrimoniaux. C'est la valeur de l'intégrité, soit physique, soit psychique. On vous protège en tant qu'individu. On n'est pas sur le même terrain, là. Les droits patrimoniaux, c'est un versant économique. Les droits extra-patrimoniaux, c'est un autre ordre de valeur. Clairement pas moins important, hein, mais ce n'est pas une valeur économique, en tout cas par principe. C'est une valeur autre. Les intérêts moraux, les intérêts psychologiques, les intérêts de protection physique, de la vie privée, de la vie intellectuelle, de... voilà, c'est votre individualité qui est protégée dans les droits extra-patrimoniaux. Et donc il y a plusieurs catégories de droits extra-patrimoniaux. Qu'est-ce qu'on peut identifier comme catégorie de droits extra-patrimoniaux ? D'abord, les droits politiques, ce qu'on appelle les droits politiques. Alors, c'est le droit de vote. Vous ne pouvez pas vendre votre droit de vote, il n'appartient qu'à vous. Voilà. Vous êtes titulaire à partir du moment où vous avez 18 ans. Tout le monde est majeur dans l'amphi ? Il y a des mineurs à main levée ? Ah oui, quand même. Non, mais c'est normal, hein. C'est horrible d'avoir le cours de L1 parce que moi je vieillis et par définition l'auditoire ne vieillit pas puisque tous les ans vous êtes succédé par une génération plus jeune. J'ai toujours de plus en plus de mal à m'y faire. Mais donc, vous tendez vers un droit de vote. Les mineurs de l'amphi se verront automatiquement reconnaître un droit de vote à leur majorité. C'est pas une acquisition, voilà, c'est pas une... C'est automatique. Arrivé à la majorité, vous devenez titulaire du droit de vote. Ceux d'entre vous dans l'amphithéâtre qui sont majeurs sont déjà titulaires de ce droit de vote. C'est pareil pour le droit d'éligibilité. Alors, vous pouvez vous présenter, vous serez élu ou vous ne le serez pas. Il n'y a pas un droit à être élu, mais il y a un droit à se présenter. Voilà. Le droit d'éligibilité, c'est le droit en tant que citoyen de se présenter à une élection. Possiblement. Ça, c'est la première catégorie qu'on appelle les droits politiques. Ensuite, vous avez les libertés publiques et les libertés fondamentales. Généralement, c'est toutes les grandes libertés qui sont dans les déclarations de droits de l'homme et dans le bloc de constitutionnalité. Voilà. Donc, c'est des libertés d'une valeur supérieure. Il y a plein de libertés, je ne vais pas toutes les citer, hein. Vous avez la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté... de croyance, de conscience. C'est toutes ces grandes libertés-là qui vous permettent, là encore, d'exprimer une individualité. Une individualité de conscience, d'expression, de création, peu importe. Mais c'est ces grandes libertés-là qui sont couvertes, donc, sous le prisme des libertés fondamentales. Ensuite, la catégorie des droits de famille. Par exemple, aller prendre un café. En plus, et je suis ravie, je pensais que l'amphi serait désert là avec la tempête. Donc merci beaucoup de vous être déplacés. J'imagine à quel point ça a dû être agréable de venir en amphi sous la pluie. Mais si vous n'avez pas envie d'être là, allez ailleurs. Il va pleuvoir plus fort à midi. Vous avez intérêt à sortir si vous voulez pas être là. Sortez. Laissez bosser ceux qui se sont tapés le RER, le bus, le métro, etc. pour venir travailler. Ensuite, la catégorie des droits familiaux. La protection du nom, la question de l'autorité parentale aussi. je ne peux pas vous céder mon autorité parentale. Alors, je serai un parent très étonnant, mais si on fait abstraction de la dimension morale, je ne peux pas vous céder, vous donner, vous vendre mon autorité parentale sur ma fille. Impossible, on ne peut pas le faire. Parce que c'est un droit extra-patrimonial qui échappe à mon patrimoine. À partir du moment où je deviens parent, on reconnaît sur mon enfant mon exercice de l'autorité parentale, qui fort heureusement est encadré, hein, mais c'est un droit extra-patrimonial, mon autorité parentale, donc le droit que j'exerce sur mon enfant dans le cadre qui est posé par la loi, et ça, évidemment, c'est un droit extra-patrimonial aussi. Et puis, la dernière catégorie, c'est la catégorie sur laquelle je vous propose qu'on se penche ensuite sur les illustrations, c'est la catégorie des droits de la personnalité. Il y a plein d'hypothèses dans les droits de la personnalité. C'est une espèce de projection de la personnalité juridique sur le terrain extra-patrimonial, c'est-à-dire par exemple le droit au respect de la vie privée, le droit à l'honneur, le droit à l'intégrité du corps, le droit moral de l'auteur, etc. Je vais vous donner les illustrations dans le second paragraphe. Hein. C'est un ensemble de prérogatives, de droits qui me sont reconnus pour protéger ma personne, dans son intégrité psychique, dans son intégrité physique. Quelques mots, on va aller assez rapidement, mais sur les caractéristiques de ces droits extra-patrimoniaux. Je dis on va aller assez rapidement, simplement parce que c'est des choses qu'on a déjà un peu évoquées, et donc c'est l'opposé des droits patrimoniaux. On a dit que les droits patrimoniaux étaient disponibles, donc susceptibles de circuler, qu'ils étaient transmissibles au décès de la personne, qu'ils étaient susceptibles d'être saisis pour rembourser une créance, etc. Les droits extra-patrimoniaux, c'est l'inverse. Exact. Ils sont d'abord intransmissibles, sauf un, et je vous expliquerai pourquoi ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire intransmissible ? Ça va avec ce que je viens de vous dire, qui est que c'est attaché à la personne. Les droits extra-patrimoniaux, ils vous sont attachés en tant qu'individu. Ça veut dire qu'au décès de l'individu, le droit disparaît avec lui. Voilà. Vous n'héritez pas des droits extra-patrimoniaux de vos parents. C'est des questions qui ont été posées par le juge parfois. Il y avait eu notamment, ça s'est posé à plusieurs reprises, assez souvent dans ces cas-là, ça engage notamment toutes les presses à scandale. Vous voyez tous les magazines comme Voici, Public, je manque un peu d'exemples, mais je connais ceux-là. Tous ces exemples de presse qui parfois révèlent des éléments et parfois notamment sur des personnes décédées. Il y a eu des hypothèses, je ne sais plus quel titre de presse ça concernait, mais c'est les faits qui sont intéressants plus que le magazine lui-même, notamment à la mort du président Mitterrand, où on a publié des photos du cadavre. Voilà, bon, ça s'est fait beaucoup. Hein. À la mort du fils de Romy Schneider, ils sont déguisés en infirmiers pour pouvoir photographier le garçon de 8 ans. Enfin, c'est des choses qui se produisent parfois. Bref, c'est publié, et typiquement à la mort de Mitterrand, les héritiers ont voulu agir pour atteinte au respect de la vie privée. Et en fait, le juge a dit, il n'y a plus de vie privée. La vie privée s'est éteinte avec François Mitterrand, son droit à la vie privée s'est éteint avec François Mitterrand, et donc vous ne pouvez pas agir sur le terrain d'un droit qui n'existe plus. Alors, il y a d'autres possibilités d'agir dans ces cas-là. Il y a des droits qui respectent, qui couvrent le respect dû au cadavre, à la dépouille des individus, mais c'est un autre terrain. En tout état de cause, il n'était pas possible pour les héritiers de dire « j'agis au titre de la vie privée de mon père, mon mari, etc. » qu'on a atteint en publiant les photos. Ce droit-là, il avait disparu. Pourquoi ? Parce que par définition, le droit extra-patrimonial, dans un cas général, le droit extra-patrimonial s'éteint avec la personne, et comme il s'éteint avec la personne, il n'est pas transmissible aux héritiers. Sauf, je vous ai... pour un droit extra-patrimonial dont on reparlera dans un instant, qui est le droit moral en droit d'auteur. C'est le seul droit extra-patrimonial qui survive. et qui donc se transmettent aux héritiers. Je vous donne un exemple dans un instant, mais lui, il se transmet. Sinon, tous les autres, ils s'éteignent à la mort. Autre caractéristique, ils sont fort heureusement, évidemment, insaisissables. Ça veut dire qu'un créancier ne peut pas saisir un de vos droits extra-patrimoniaux pour se rembourser, pour exécuter sa créance que vous n'avez pas exécutée. Les créanciers n'ont aucun droit sur les droits extra-patrimoniaux. C'est assez logique. On a dit au début que le droit extra-patrimonial n'avait pas de valeur pécuniaire. Il n'a pas de valeur économique, donc on ne peut pas s'en servir pour rembourser une créance. Donc il est insaisissable. On ne peut pas vous en départir sous prétexte qu'il faut rembourser une créance que vous avez souscrite. Ensuite, ils sont indisponibles. C'est sans doute la plus grande caractéristique. Ils se situent en dehors du commerce. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une cession, d'une renonciation, d'une donation, etc. Toutes ces conventions-là, tous ces contrats-là qui seraient conclus sur un droit extra-patrimonial sont évidemment frappés de nullité absolue, entièrement. Et c'est pour ça aussi, et c'est comme ça qu'est structuré en quelque sorte le raisonnement sur les conventions de mère porteuse. Parce que le corps est indisponible et que c'est un droit extra-patrimonial. On ne peut pas renoncer à cette indisponibilité du corps par contrat. Donc la convention de mère porteuse, par définition, est nulle. C'est un débat qu'on peut mener sur le terrain du droit, mais en l'état actuel, le raisonnement était construit comme ça. La dernière caractéristique, c'est la caractéristique d'imprescriptibilité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'imprescriptibilité ? Ça veut dire que les droits extra-patrimoniaux ne s'éteignent pas par leur non-usage. Alors là, il faut bien distinguer. Les actions, sauf certaines actions particulières comme sur le droit au nom, elles sont prescriptibles, elles sont soumises à une prescription. Vous vous souvenez, quand on avait fait l'application de la loi dans le temps, je vous avais expliqué ce que c'était que la prescription. L'action, elle se prescrit, en principe, sauf certaines actions particulières. C'est-à-dire que vous allez porter atteinte à un droit, par exemple, et la personne à laquelle vous allez avoir porté atteinte a un peu de temps qui est fixé pour agir contre cette atteinte. Voilà. Là-dessus, sur l'action, il y a une prescriptibilité. Ce que ça veut dire, le fait que le droit soit imprescriptible, ça veut dire que je peux ne pas l'invoquer pendant 40 ans, accepter des atteintes à ma vie privée pendant 40 ans, et le jour où à la 251e atteinte à ma vie privée, ben, j'en ai marre et j'invoque mon droit à la vie privée, on ne peut pas se défendre en disant « Attendez, pendant 50 ans, elle a accepté ces atteintes-là, le droit est prescrit. » Non. Le droit ne disparaît jamais par son non-usage. C'est ça que ça veut dire. Le droit extra-patrimonial ne disparaît jamais par son non-usage. Ça veut dire que même si je tolère des atteintes pendant des années, si je décide de me réveiller au bout de 15 ans et d'agir pour protéger mon droit, on ne pourra pas m'opposer cette espèce d'inertie que j'ai eue pendant 15 ans. Mon droit est imprescriptible, donc il n'a pas disparu au prétexte que je ne m'en suis pas servi pendant 15 ans. L'imprescriptibilité, c'est ça. Est-ce que sur les grands éléments de définition, c'est clair ? Qui est paumé ? Pour qui est-ce que ça va ? Ok, super. On va passer maintenant à quelques illustrations. Je précise, évidemment, j'en ai pris 4, j'en ferai une cinquième éventuellement sur le droit à l'image si on a le temps. Je précise évidemment que ces 4 exemples, parmi des centaines, voilà, j'en ai pioché parce que je trouvais ça parlant en amphi pour vous expliquer les modalités des droits extra-patrimoniaux, mais c'est quelques illustrations seulement. Donc ça fait l'objet d'un paragraphe 2 sur les illustrations. Je prends mes exemples dans les atteintes aux droits de la personnalité. Donc, droit de la personnalité, dont on a vu qu'ils étaient une des sous-catégories des droits extra-patrimoniaux. Je me concentre sur les droits de la personnalité. Encore une fois, les droits de la personnalité, c'est les droits qui sont reconnus à tout être humain. Et parfois, aux personnes morales, ça dépend. Il y a quelques droits, c'est rare.
mais essentiellement aux personnes physiques, donc dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité juridique, mais on a vu que c'était dès la naissance pour les personnes physiques. Et ces droits de la personnalité, ils ont, on l'a dit, vocation à assurer une espèce de protection des intérêts primordiaux de la personne, voilà, de son intégrité. Le droit extra-patrimonial, et spécifiquement le droit de la personnalité, il est là pour ça, pour protéger votre personnalité, mais pas au sens de la personnalité juridique, là, pour le coup, au sens de votre individualité, de ce qui fait de vous ce que vous êtes et de la nécessité de protéger l'humain que vous êtes. Voilà. Et donc, très souvent, on répartit les droits de la personnalité en deux groupes, les atteintes à l'intégrité psychique, les atteintes à l'intégrité morale, à l'intégrité physique, pardon. Donc, atteinte à l'intégrité psychique ou morale, dépend comment vous le dites, d'un côté, atteinte à l'intégrité physique de l'autre. En gros, les trois premiers exemples, c'est de l'atteinte à l'intégrité morale, le dernier, c'est de l'atteinte à l'intégrité physique. Premier exemple, qui va tous vous parler, parce que ça se fait tout le temps, qui est la question de la publication, la communication des échanges privés. Et évidemment, c'est une question qui s'est particulièrement développée avec les réseaux. Le principe de secret des correspondances, il existe depuis des décennies. Depuis des décennies, le juge considère que une correspondance privée relève du droit à la vie privée et donc que la diffusion, sans le consentement de l'auteur, de correspondance privée est une atteinte à la vie privée. On a échangé des courriers, vous avez publié sans mon consentement le courrier. Si dans ces courriers il y avait des éléments perso, je peux agir sur le terrain de la protection de ma vie privée. Évidemment, s'il n'y avait rien de personnel et qu'on s'est juste envoyé des messages pour discuter de l'organisation du cours, il n'y a pas d'atteinte à ma vie privée. Il faut regarder le contenu des messages. Mais s'il y a des éléments personnels, je peux agir sur le terrain du droit au respect de la vie privée. Parce que la communication des correspondances privées est une atteinte à la vie privée. On ne réinvente rien avec les réseaux sociaux. Hein. La publication DM de choses comme ça, c'est une violation du secret des correspondances. Le droit s'adapte. Le droit est... Là, je commence vraiment à en avoir marre. Le droit, et c'est pour ça aussi que je vous dis que l'inflation législative, il faut toujours réfléchir avant de créer de nouvelles règles. Oui, la publication de messages privés sur les réseaux sociaux est couverte par un principe qu'on connaît depuis fort longtemps, qui est le principe du secret des correspondances privées. Alors effectivement, quand on a créé ce principe du secret des correspondances, on l'a pensé papier. Voilà. C'était des échanges de courriers, c'était des lettres, manuscrites, etc. Et puis la technologie a évolué et a donné d'autres hypothèses de correspondance privée. Ça ne change pas le sens de la règle. Que ce soit des courriers papier envoyés par la poste entre vous et moi ou des messages sur Insta en privé, la modalité de communication change et elle devient électronique, numérique, mais le sens de la règle, ça reste le même. On a eu des échanges privés qui ont été révélés sans le consentement de la personne qui en est l'auteur. C'est une atteinte. S'il y a encore une fois du contenu personnel dans le contenu, c'est une atteinte au droit au respect de la vie privée. Et donc, c'est susceptible d'être sanctionné. Évidemment. Il y a une question intéressante sous ce prisme-là. Donc, je vous dis, faites attention à ce que vous publiez, évidemment. Et en fait, ce sera au juge de déterminer si c'est privé ou public. Si c'est public et que c'est rediffusé, là, il n'y a pas d'atteinte au secret de la vie privée, puisqu'il n'y a pas d'atteinte au droit au respect de la vie privée, puisque c'est vous qui avez diffusé si c'est public. Si c'est privé, peu importe la modalité de communication, une capture d'écran, WhatsApp, Insta, Snapchat, peu importe, si c'était privé, le cas échéant, ça relève du droit au respect de la vie privée. Cas particulier quand c'est un salarié. Les correspondances privées d'un salarié avec les outils de l'employeur. Ça pose une question. Depuis un arrêt Nikon, ça s'écrit N-I-K-O-N, depuis un arrêt Nikon de 2001,
On se fiche de l'année, hein, c'est juste que vous ayez l'idée. Mais depuis cet arrêt Nikon, la Cour de cassation considère que les échanges privés sont couverts par le droit au respect de la vie privée. Ça veut dire que l'employeur ne peut pas sanctionner son salarié pour des propos qu'il a tenus en privé, par messagerie instantanée, par messagerie électronique, etc. Ça veut dire notamment que, et on a des décisions encore récentes dans ce cas-là, alors ça fait l'objet de discussions en doctrine, mais pour l'instant le juge tranche dans ce sens-là, ça veut dire que par exemple, si on trouve dans les correspondances privées du salarié, dans un groupe fermé, WhatsApp, etc., des propos qui sont misogynes, homophobes, racistes, etc., on ne peut pas sanctionner le salarié. Ça relève du secret des correspondances, c'est pas public, et parce que ça relève du secret des correspondances, ça relève de la vie privée, que le salarié a même au travail, et il n'est pas susceptible d'être sanctionné. Sauf un arrêt récent, relativement récent, qui a un tout petit peu plus d'un an, tout petit peu moins d'un an, pardon, et qui est intéressant à connaître pour vous, qui est un arrêt du Conseil d'État, qui est l'arrêt Lebon T, l'arrêt Lebon, L-E-B-O-N, un arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2023. C'est un arrêt technique, je vais essayer de vous expliquer le raisonnement qui a été mené. Donc, si vous avez bien compris, en fait, à partir de l'arrêt Nikon, la Cour de cassation, donc la jurisprudence judiciaire, considère que le droit à la vie privée du salarié doit primer et qu'on ne peut pas sanctionner le salarié pour des propos qu'il a tenus en privé, y compris sur les outils numériques fournis par l'employeur. Parce que pour la Cour de cassation, c'est le droit au respect de la vie privée qui prime. C'est un peu la balance des intérêts dont on avait parlé précédemment. On fait une balance entre la nécessité de sanction par l'employeur, le respect du droit à la vie privée du salarié, et pour la Cour de cassation, c'est le droit à la vie privée qui l'emporte. Arrêt Lebon du Conseil d'État, donc là on est côté administratif, hein, pour la jurisprudence administrative. Il y a une sanction disciplinaire qui est prise contre un policier parce qu'il a tenu, dans des échanges privés, notamment avec des collègues, des propos de même nature que je vous passe, hein, qui sont dans l'arrêt, mais que je m'abstiens de rapporter ici, mais qui sont en gros des propos xénophobes, misogynes, enfin, dans les échanges, vous trouvez à peu près tout. Si on suit la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est des échanges privés. C'est pas des propos tenus en public, c'est des échanges privés, et donc il n'est pas possible de sanctionner l'employé au regard des propos tenus en privé. Le Conseil d'État n'a pas tranché dans ce sens-là. Le Conseil d'État a suivi l'avis du rapporteur public et a validé la sanction disciplinaire de l'agent de police. Je suis désolée. Je vais essayer de vous expliquer le raisonnement. Le Conseil d'État part du fait que les agents publics, et c'est pour ça que je vous dis, c'est spécifique, on est là d'abord sur le versant administratif, la jurisprudence administrative, et en plus sur la question des forces de l'ordre. Le Conseil d'État part du principe que les agents publics, c'est dans le code, hein, les agents publics, c'est ce que dit le texte, en tout lieu et en tout temps, doivent suivre un certain nombre de principes déontologiques. Et ce qui intéresse le Conseil d'État ici, c'est l'expression « en tout lieu et en tout temps ». Le Conseil d'État se sert de cette expression-là pour considérer que la gravité de la faute qui a été découverte par l'employeur, donc des propos xénophobes, homophobes, etc., la gravité de cette faute commise là, qui a été découverte par l'employeur en consultant des messageries privées, elle justifie que cet employeur puisse se servir d'échanges pourtant privés pour sanctionner l'agent de police. C'est-à-dire que là, c'est la même balance des intérêts, mais la réponse qui est apportée par le Conseil d'État est différente. Pour le Conseil d'État, ici, en quelque sorte, je reprends l'expression d'un auteur dans une des observations, une des notes qui avait été publiée sur cet arrêt-là, mais je la trouve très pertinente. La fin justifie les moyens. La fin, ici, pour le Conseil d'État, c'est de sanctionner un comportement qui est particulièrement problématique, a fortiori pour un agent de police. Et bien, cette fin-là, cet objectif-là, cette finalité-là, elle justifie les moyens. Les moyens, c'est quoi ? C'est de rechercher dans des correspondances personnelles. Et donc, là où la Cour de cassation vous dit depuis 2001, correspondance privée, ça ne peut pas être mis en œuvre par l'employeur pour sanctionner le salarié, c'est couvert par le droit au respect de la vie privée qui joue même au travail. Donc on ne peut pas utiliser ces éléments-là pour prononcer des sanctions, le cas échéant, à un licenciement, si on va jusque-là. Le Conseil d'État ne raisonne pas de la même manière. Pour le Conseil d'État, mais c'est encore une fois un raisonnement qui est spécifique d'abord pour les agents publics, et ensuite dans la catégorie des agents publics, pour un représentant des forces de l'ordre. Donc on est quand même sur une catégorie qui peut-être mérite effectivement un raisonnement un peu différent. Le Conseil d'État va mener ce raisonnement différent, va opérer la balance des intérêts. Est-ce qu'il, dans la balance, qu'est-ce qui doit l'emporter entre sanctionner des propos de la sorte ou respecter le droit au respect de la vie privée de la personne, alors que la Cour de cassation vous dit, donc dans des circonstances privées, puisqu'on est sur une jurisprudence judiciaire, là, c'est le droit au respect de la vie privée qu'il faut l'emporter, qui doit l'emporter. Pour le Conseil d'État, c'est le contraire. Pour le Conseil d'État, c'est la sanction d'un comportement particulièrement grave qui doit l'emporter. Et donc, on est en capacité de sanctionner de manière disciplinaire un agent de police en se reposant sur des correspondances privées. Donc, retenez ça. D'abord, une dissension à la... J'ai du mal à identifier une dissension véritablement. C'est pas un conflit entre les deux cours. À mon sens, il n'y a pas de divergence d'analyse. C'est des cas différents, en fait. Là où on peut entendre que le respect de la vie privée prime pour un salarié, entre gros guillemets, lambda, c'est pas illégitime de considérer qu'un représentant des forces de l'ordre, c'est pas exactement comme un salarié lambda. Et que, si on reprend le fil du raisonnement du Conseil d'État, effectivement, les principes déontologiques qui ont vocation à s'appliquer en tout lieu et en tout temps, là, ont été atteints de manière particulièrement grave et que ça justifie un licenciement. Donc vous voyez, c'est aussi une question de lecture. C'est pas forcément une opposition entre la lecture de la Cour de cassation et la lecture du Conseil d'État. C'est des situations différentes qui amènent à mettre en œuvre une même balance des intérêts, mais elle ne va pas peser de la même manière dans les deux espèces, dans les deux hypothèses. Côté judiciaire, on va plutôt faire primer la vie privée du salarié. Côté administratif, et encore une fois, spécifiquement pour les forces de l'ordre, je ne suis pas certaine que pour moi, enseignant-chercheur, ce serait fait exactement de la même manière, vous voyez. Mais la catégorie des... J'en sais rien, hein, c'est ouvert à discussion. Mais en tout cas, pour la catégorie des forces de l'ordre particulièrement, il y avait une vraie vocation à se dire, bon... Là, il faut que la gravité de la faute puisse être sanctionnée. Il faut qu'on puisse se reposer là-dessus pour prononcer une sanction. Et donc, même balance, mais les faits sont différents, les fonctions exercées par le salarié sont différentes, et donc la mise en balance des intérêts va s'opérer différemment et aboutir à deux solutions différentes, qui, à mon sens, ne se contredisent pas, mais qui se complètent. Voilà. C'est deux visions différentes parce qu'il y a des éléments de faits différents. Au-delà de ça... Souvenez-vous donc que les publications en privé que vous auriez la velléité de diffuser parfois, parce que ça arrive, et on va en reparler pour des cas plus graves derrière, mais ça arrive clairement, ces cas-là sont couverts par le droit au respect de la vie privée, y compris, je ne sais pas si ça se fait encore, je sais que il y a quelques années, on avait eu pas mal de litiges là-dessus. Alors, il faut m'excuser sur le côté à l'ancienne, cette appli-là, je ne l'utilise pas du tout. Mais je crois que sur Snapchat, il y a des contenus qui sont instantanés, temporaires. Vous pouvez, c'est ça, hein, vous pouvez envoyer ou diffuser des contenus qui disparaissent dans l'instant. Si vous faites une capture d'écran et que vous la diffusez, et que cette capture d'écran-là, elle porte atteinte à la vie privée pour plein de raisons possibles, c'est de l'atteinte au respect de la vie privée. Est-ce que c'est ça la question qu'il faut vous poser pour savoir si c'est couvert par le secret des correspondances ou pas ? Et donc par le droit au respect de la vie privée, évidemment. est-ce que les destinataires, même s'ils sont plusieurs, étaient précisément identifiés et qu'on est dans une discussion fermée ? Si oui, et que c'est diffusé à l'extérieur, alors il y aura une atteinte au respect de la vie privée. Il y a une atteinte au droit à la vie privée. Si c'est ouvert, alors il n'y a pas d'atteinte. Et parfois, la nuance n'est pas évidente. Et parfois, le juge est vraiment obligé de faire de l'analyse hyperfactuelle. Par exemple, on va prendre des exemples concrets. Hein. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de contentieux en ce moment là-dessus, mais vous êtes sur Instagram et vous êtes en profil fermé. Donc, par définition, tout le monde n'a pas accès au contenu que vous publiez. Et vous êtes marié et... Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple ? Et votre époux ou votre épouse ne sait pas que vous avez un compte Instagram, et sur ce compte Instagram, vous publiez une photo où vous êtes avec votre amant ou votre maîtresse. Et cette photo-là, elle est rediffusée derrière. Est-ce que la personne qui a diffusé porte atteinte à votre droit à la vie privée ou pas ? Ben, ça dépend, en fait. Et notamment, ça va dépendre de qui vous aviez accepté comme followers sur Insta. Ouais. Merci. Qui est-ce que vous aviez dans vos followers ? Est-ce que vous avez vos 5 meilleurs copains qui connaissent toute votre vie, qui planquent tous vos secrets depuis 10 ans ? Et s'il y en a un, deux qui a révélé, alors effectivement, c'est une atteinte à la vie privée. Si dans vos followers, vous aviez des comptes de chatbot qui existent par centaines et que vous acceptez automatiquement des gens que vous n'avez jamais vus, de vagues connaissances, etc., ça devient plus discutable. C'est du cas par cas. Voilà. Est-ce que c'était vraiment fermé si vous avez accepté à l'intérieur des tas de gens que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, etc. Parfois, très souvent, et c'est ça qui rend les débats passionnants aussi, s'il vous plaît, sur ces problématiques-là, ça va être de l'analyse factuelle au cas par cas. Je vous propose qu'on fasse la pause maintenant parce que la question du cyberharcèlement, je veux la coupler avec une autre question et on en a pour un moment. Donc on fait la pause là et on reprend sur le cyberharcèlement ensuite. Je suis à vous, je sauvegarde juste le fichier audio.